I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et si nous parlions un peu de mon ménisque? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de mode de vie sportive, surtout de mouvement, de l'importance que prend le mouvement dans notre vie, dans le bonheur que ça nous procure de bouger, de courir, de nager, de rouler, de bouger, oui, c'est ça, de bouger. Mais en ce moment, je ne peux pas vraiment bouger, je suis cloué, alors je peux pas dire cloué sur ma chaise, non, c'est exagéré, je peux marcher, mais la course à pied, pour l'instant, j'ai pas le droit. Et non, je n'ai pas le droit. Je vais tout vous expliquer dans cet épisode, vous allez tout comprendre. Voici l'histoire. Cet hiver, je faisais des sauts de cabri dans la neige, gaiement. Vous avez vu les photos sur Instagram, comme ça, il neige, comme ça, je vais courir. Un vrai kiff sur les chemins, il y avait une belle petite couche de neige, comme ça. Et puis, hélas, un vendredi, comme ça, mon genou me fait mal. Bon, j'avais une petite séance de vitesse, j'avais un petit peu accéléré. Et à la fin de l'entraînement, vraiment, je sens que ça tiraille, ça fait mal. Le lendemain, même le soir, mais surtout le lendemain, le genou est très gonflé, la glace n'y fait pas grand-chose et je ne peux ni tendre ni plier complètement la jambe. Comme le confirme la radio quelques jours plus tard, mon genou est rempli de synovie en grande quantité. Bon, l'épanchement de synovie, c'est un truc que je connais. Hein. Bon, la synovie, c'est quoi? C'est un liquide qui assure la lubrification de l'articulation. Et c'est normal d'avoir de la synovie, hein, c'est l'huile dans les rouages. Mais quand il y en a trop, c'est que le genou souffre. Cet épanchement important est en fait le témoin d'une blessure. Le genou se met en forme de protection, si vous préférez. C'est-à-dire que, en fait, le fait de ne pas pouvoir le plier ni le tendre, bah, c'est pour le protéger de justement en faire trop dessus et que ça finisse par casser encore plus. Mais la radio ne montre pas quoi, elle ne montre pas de quoi, quel est le problème. Comme me le dit le médecin radiologue à la fin de l'examen, me dit « Je ne sais pas ce que vous avez, mais je comprends que vous ayez mal car il y a quand même une sacrée quantité de synovie dans votre genou. » Si la radiologue ne peut pas dire ce que j'ai, l'étape suivante est donc une IRM. Bon, le médecin du sport me l'avait prescrit à l'origine pour vérifier un syndrome rotulien, je vous en avais déjà parlé, qui avait été vu, alors déjà par ce médecin du sport, mais aussi qui avait été repéré par mon ostéopathe pendant l'été. Bon, le syndrome rotulien, c'est une usure de la rotule, mais j'avais pas mal jusque-là. Mais l'IRM montre autre chose. Bon, il y a bien le syndrome rotulien, ça c'est clair, mais il montre aussi une lésion du ménisque interne. Sur l'IRM, le ménisque qui devait apparaître, ou pas vraiment apparaître d'ailleurs, hein, quand on n'a pas l'œil averti, en noir, et finalement tout blanc. Et là, vraiment, vous voyez, il s'illumine hein, sur l'IRM. Et ça, c'est pas bon signe. Ça, c'est vraiment pas beau signe. Et au CHU, le service orthopédie confirme très rapidement le ménisque est touché. Ils n'ont même pas besoin de lire le compte-rendu. Il suffit de regarder l'IRM. Le ménisque est tellement blanc qu'on sait qu'il est touché. Mais au fait, c'est quoi finalement un ménisque? Alors, nous avons tous deux ménisques par genou. Bon, on ne parle pas forcément toujours souvent des ménisques, hein, je vous l'accorde. Hein, j'ai plus souvent entendu parler des ligaments. Vous savez, les fameux ligaments croisés, là, hein, des genoux, des gens qui se font opérer. Et ben, c'est presque au même endroit. Et ben oui, c'est même au même endroit. Pour faire court, le ménisque, ça ressemble à un croissant. Alors, les ménisques, ce sont donc des petits croissants qui font le tampon entre la tête du fémur et le tibia. Et il y a un truc dans notre corps, c'est que notre corps est bien fait, mais le fémur et le tibia ne s'adaptent pas parfaitement l'un à l'autre. Le bas du fémur est arrondi, alors que le haut du tibia est plat. Et bon, j'ai pas besoin de vous faire des trucs de mécanique. Si vous mettez un truc arrondi sur un truc plat, et à un moment donné, ça coince, ça grince, parce que ça s'imbrique pas comme il faut l'un dans l'autre. Bon, les espaces vides entre ces deux os sont donc comblés par deux petits coussinets de cartilage fibreux, ou fibrocartilage, oui, carrément. Ce sont les ménisques. Et chaque genou comprend donc deux ménisques qui ont la forme de petits croissants. L'un est le ménisque latéral, externe, et l'autre est appelé le ménisque médial ou interne. Bon, j'ai pas besoin de vous dire à ce stade qu'il y en a un qui est plutôt sur l'intérieur du genou et l'autre plutôt sur l'extérieur du genou. Mais finalement, à quoi ils servent ces ménisques et ces ligaments? Eh ben, ils jouent un rôle majeur dans la stabilité de genou. La forme particulière des ménisques et leur structure fibrocartilagineuse, ouais, j'ai du mal à le dire, élastique, permettent de mieux répartir la pression du poids du corps. En fait, ils jouent un rôle de stabilisation de l'articulation, ils jouent aussi un rôle d'amortissement, et les ménisques facilitent aussi le glissement entre les pièces osseuses en jouant un rôle de lubrifiant, et puis oui, parce que ça évite aussi que les cartilages frottent entre eux, et donc que ça use le cartilage prématurément. Mais pourquoi finalement ce ménisque il casse maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, casse ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'il abîme maintenant? Alors, il y a plusieurs causes qui expliquent que des ménisques peuvent être abîmés. Les cas traumatiques, hein, notamment, ce sont des cas où les ménisques sont abîmés lors de mouvements anormaux du genou ou lors d'un traumatisme. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Bon, bah, ces lésions, elles viennent d'abord sur des sujets jeunes et ou sportifs. Alors là, je cherche quelques infos et qu'est-ce que je vois? Mouvement anormal responsable d'une entorse du genou avec lésion d'un ligament et lésion méniscale. Bon, bah ça me rappelle un truc au foot quand j'étais jeune, hein, quand je jouais au foot, enfin au foot, c'était même pas en club, hein, c'était pendant l'entraînement de tennis ou à côté de l'entraînement de tennis, en jouant, vous savez, avec une petite balle. Bon, il y a un petit tac un petit peu appuyé d'un camarade, bon, le genou se déboîte un petit peu, ça revient, épanchement de synovie, ça revient, quelques temps après, j'y pense plus, voilà. Mais, quelques temps encore après, j'ai un autre cas. Et là, sur le site que je consulte, qu'est-ce que je vois? Genou qui vrille lors d'une activité sportive et génère une fissure d'un ménisque. Exemple, accident de ski. Alors ça, je peux vous dire que je connais bien, puisque quand j'étais au lycée, je faisais du snowboard et j'avais une drôle de blessure, je m'étais cassé le coude parce que en faisant du snowboard sur un virage un peu appuyé, mon genou avait lâché, il était parti, il s'était défaussé et donc je m'étais pris une grosse gamelle et je m'étais cassé le coude. Et ben voilà, et ben tiens, et si ça venait de là? Est-ce que finalement ce problème-là que je traîne depuis maintenant peut-être 25 ans aurait pu se réveiller maintenant? Eh ben, le chirurgien me dit que oui, que ça fait un moment que c'est là et que ça a vraiment fini par se réveiller. Alors, il sait pas trop pourquoi ça s'est réveillé maintenant, pourquoi ça m'a pas embêté avant. Bon, bien sûr, pendant 20 ans, je faisais pas de sport, on peut comprendre que ça m'est pas trop embêté. Pourquoi ça m'a pas embêté sur la préparation marathon? Pourquoi ça m'a pas embêté sur du trail? Ça, c'est un grand mystère. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce genou. Alors je vais vous le dire, quand mon médecin de traitant a vu mon genou, il m'a dit « Oups, là c'est compliqué, ça dépasse mes compétences ». Mon médecin du sport m'a dit « Vous n'irez pas courir un marathon avec ce genou ». Donc déjà le marathon d'Albi, s'il sera organisé le 25 avril, dans tous les cas je peux pas y aller. Et puis il m'a dit « De toute façon, là il faut opérer ». C'est aussi l'avis du chirurgien, parce que le rendez-vous suivant, ça a été d'aller voir au service orthopédie du CHU. Et donc là, ils ont commencé à ausculter mon genou. Alors ils ont regardé un petit peu dans tous les sens, vous savez, le CHU, c'est assez drôle parce que il y a les externes, il y a les internes, il y a les médecins, les chefs de service, etc. qui viennent, donc je les ai tous vus. Alors d'abord, quand ils ont commencé à regarder un petit peu, ils ont essayé de savoir ce qu'il y avait dedans, d'analyser, de comprendre un petit peu, et puis est arrivé le chef de service, et qui a regardé un élément, vraiment un élément, ma montre. Et oui, ma montre, c'est ce qu'il a dit à l'externe. Il a dit, regardez bien cette montre-là, hein, voyez cette montre-là, il dit. J'avais ma montre Coros au poignet, et lui dit donc à l'externe, est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui porte une montre comme ça va passer son temps assis dans un canapé? Demandez-lui, posez-lui la première question quand vous voyez quelqu'un qui porte une montre comme ça au poignet, demandez-lui combien d'heures de sport il fait par jour. Et surtout, il lui a dit quelque chose de super intéressant et de super rassurant pour moi qui était là comme ça, un petit peu tremblant. Il lui a dit, on ne soigne pas le genou, là on soigne un sportif qui veut savoir quand est-ce qu'il pourra recourir. Et le meilleur moyen d'aller soigner ça, me dit-il, c'est d'opérer parce que ça ne se soignera pas tout seul. Alors ensuite, bon, il m'a expliqué, bien entendu, que le ménisque, il y a trois couches, il y a une couche externe, une couche moyenne et une couche interne, et que là, a priori, les trois couches sont touchées, ce qui est un peu dommage parce que la couche externe se répare assez vite, la couche moyenne un peu moins vite, et la couche interne, pas du tout. Ou très doucement. Donc au final, le meilleur moyen pour eux, c'est d'opérer, d'aller voir comment ça se passe à l'intérieur, de voir s'il faut faire une petite suture, enlever un petit bout, retailler ou je ne sais quoi. Bref, voilà pourquoi le jour où cet épisode est diffusé, au moment même où vous l'écoutez, peut-être si vous l'écoutez le 10 mars dans la matinée, je suis allongé sur une table d'opération pour réparer ce genou. Bah oui, parce que le jour de la diffusion de cet épisode, c'est le jour où je me fais opérer du genou. Donc voilà, vous savez où je suis, au moment même où vous avez peut-être téléchargé cet épisode, je suis en train de me faire réparer le genou, je suis chez le mécano du genou, si vous préférez. Bien entendu, dans ma tête, les questions sont nombreuses, et notamment de se dire, est-ce que je suis encore un coureur? Alors qui veut faire l'Ironman de Vichy en 2023 comme moi, on se dit qu'on se donnerait peut-être rendez-vous au départ, m'a dit que ce serait un petit peu long, qu'il faudrait un petit peu de temps pour que ça revienne, que je pourrais pas repartir comme ça comme un lapin dès le départ, mais que oui, je pourrais faire ce fameux Ironman. Le chirurgien, lui, est carrément un marathonien. Il m'a dit que j'allais recourir normalement et même gagner 20 minutes au marathon si j'écoutais ses conseils. Et ses conseils, c'est d'éviter de m'épuiser, travailler correctement ma VMA, mais c'est pas la peine d'aller faire des grandes séances de courir 10 heures par semaine ou quoi que ce soit. Non, non, non. Pour peu, il pourrait me partager son plan d'entraînement sur la table d'opération ce mercredi puisque j'ai choisi l'anesthésie locale. Mais dans ma tête, ce n'est pas si simple. Que va-t-il se passer? Quand est-ce que je vais pouvoir recourir? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que j'aurai mal dans quelques temps? Est-ce que ça va me bloquer? Est-ce que je vais pouvoir faire tout ce que je veux? Est-ce que je vais pouvoir faire des grandes distances, des petites distances? Est-ce que je vais pouvoir aller vite? Voilà, vous comprenez toutes ces questions-là. Et là, vous n'allez pas le croire. Vous vous souvenez de Leila d'Apiron? Oui, oui, vous savez, on avait fait un épisode spécifique sur le miel. Nous avons gardé le contact après l'épisode et je suis même devenu ambassadeur officiel de la marque. Et nous avons même lancé un podcast ensemble sur le sport et la nutrition sportive. Et dans Apiron, il n'y a pas que Leila, il y a aussi Pascal, apiculteur, coureur, entraîneur. Et j'avais invité Pascal pour parler d'entraînement, notamment parce qu'avec sa casquette d'entraîneur, ça m'intéressait de savoir, lui, quels étaient les conseils qu'il donnait justement pour préparer des courses, pour se mettre à courir au printemps pour ceux qui voudraient courir, ou pour préparer des plus longues distances. Mais Leila m'a dit une chose, avant même que je parle avec Pascal, elle m'a dit « Tu sais quoi ? Je dois te raconter quelque chose. » Bon, je fais durer un peu le suspense parce que je trouve quand même que c'est un peu incroyable l'histoire. Pascal a coutume de dire qu'il court plus dans une année que la voiture de ses parents a fait de kilomètres dans sa vie. Bon, Pascal, en fait, il a couru plus de 100 marathons et plus longues courses hein, dans sa carrière et depuis 20 ans, il fait entre 3000 et 5000 kilomètres par an. Et pourtant, Pascal s'est fait opérer d'un ménisque il y a 19 ans. Autant dire que je voulais en savoir plus sur son expérience et voilà comment est né cet épisode. Ensemble, nous allons parler de son parcours, de sa blessure, son opération, puis ce qui s'est passé après, quelles sont les courses qu'il a faites et comment lui y voit les choses. Nous allons parler de l'erreur qu'il a faite pour son genou qui peut être intéressante hein, d'ailleurs parce que dedans, il donne un conseil. Bien écoutez, si un jour vous devez faire soigner un genou et notamment une infiltration, comment il est revenu, l'importance de bien s'échauffer, le rôle de l'acide lactique dans le corps, comment l'éviter d'ailleurs, la foulée des bras, ah oui on a beaucoup parlé de foulée des bras, l'importance de varier les chaussures aussi, vous savez j'en ai parlé dans l'épisode Adidas, c'était lui qui m'avait dit tu verras ça peut être intéressant de varier les chaussures. Cet épisode, je dois vous le dire, est le premier d'une série avec Pascal. En fait, nous avons prévu d'autres épisodes. Nous avons enregistré des épisodes sur les bases de l'entraînement et sur l'entraînement pour augmenter les distances, notamment pour aller vers l'ultra. Bon, vous les découvrirez très bientôt hein, parce que je les étale un petit peu au fil du temps. Et en attendant, je vous propose d'abord ce premier épisode dans lequel on va plutôt se concentrer sur le genou, le ménisque et tout ce qui tourne autour de cette blessure pour confronter un petit peu lui qui a vécu cette opération et moi qui dois la vivre là maintenant que vous êtes en train d'écouter cet épisode. Bon voilà pour cette intro, j'ai quand même pas mal parlé, mais avant de vous laisser avec Pascal, je voudrais vous faire quelques rappels. Le premier c'est que vous pouvez partager KMN42 sur Instagram et sur Twitter, sur les réseaux sociaux pour m'aider à le faire connaître parce que c'est ce qui aide vraiment le plus le podcast à être connu. Donc vous pouvez par exemple partager une petite photo de là où vous êtes en train de courir avec le hashtag KM42podcast et vous mentionnez mon compte @BertrandSoulier. D'ailleurs je vous le dis, si vous m'écoutez sur Spotify, vous pouvez partager directement en story l'épisode hein, dans l'application, vous cliquez sur les trois petits points là tout en haut à droite, faites défiler, partagez en story Instagram, mais vous pouvez aussi partager par message, par Facebook, etc. Ne vous privez pas, partagez le plus possible, ça aide vraiment le podcast à être découvert. Ensuite, je vous rappelle que vous pouvez m'aider à devenir champion du monde de mon monde, à soutenir mon rêve de devenir sportif pro à ma manière, en soutenant le podcast sur Patreon, vous faites KM42. run/Patreon pour accéder à la page et là vous découvrirez en fait les formes de soutien qui vous permettront d'accéder aux épisodes sans la pub et largement à l'avance ainsi que mon genre d'entraînement tous les lundis, c'est un podcast privé où je donne les détails, les épisodes aussi, quels sont les prochains invités, je vous demande si vous avez des questions particulières, etc. Voilà, c'est tout un petit peu les coulisses hein, du podcast. Et puis, je vous rappelle aussi que vous pouvez venir rejoindre le Hamsters Running Club, le club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis. Voilà, on est dans la bonne humeur, on a chacun nos défis, chacun nos vitesses, chacun nos objectifs, chacun nos distances, mais on est là, réunis par le plaisir de bouger tous ensemble. Bon, maintenant, il est temps pour moi de fermer ma bouche et de nous laisser avec cette discussion avec Pascal. Allez, c'est parti. Bonjour Pascal.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu ?
Eh ben, ma foi, plutôt assez bien, ouais.
Bon, je suis content, t'es meilleure voix que la mienne. Moi, la mienne, elle est un petit peu quick, mais c'est pas grave, on va faire un épisode qui est très, 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 très important pour moi en ce moment, parce qu'on va parler de genoux, hein, et c'est un sujet qui me trotte dans la tête, et j'ai découvert complètement par hasard que tu pouvais être la personne qui pouvait me rassurer sur mon fameux ménisque. Alors, avant de commencer, je vais te laisser te présenter en quelques mots, et je vais te poser une question qui est extrêmement importante, c'est combien tu as fait de courses jusqu'à maintenant, quel type de distance tu as fait ?
Alors, combien j'ai fait de courses, je serais incapable de le dire en nombre. Parce que entre les crosses, les 5 km, alors je devrais commencer par la plus petite distance, entre les 3000 steeples, après les 5000 pistes, après les 5000 sur route, les crosses, les 10 km, les 15 km, fait, les semis, les 30 km, les marathons et ultra, je suis incapable. Ce que je peux dire, c'est que j'ai au moins une centaine de courses de plus de 80 km.
Attends, tu as une...
Non, pardon, pardon, je me trompe, je me trompe. Entre les marathons et plus, j'en ai au moins une centaine.
Donc,
C'est-à-dire, j'ai une quarantaine d'ultras de plus de 80 km et je dois avoir 56 ou 57 marathons.
C'est impressionnant, c'est-à-dire que tu as toujours couru dans ta vie ou...
Non, pas vraiment. En fait, j'ai commencé à l'âge de 28 ans à courir. Où je me suis entraîné pour faire un semi-marathon, puisque ma première course a été un semi-marathon. Et après, oui, j'ai toujours couru, sauf une période, celle du genou, où j'ai été blessé. Mais j'ai été blessé, comment je dirais, par accident. Et ce n'est pas la course à pied qui m'a blessé à proprement parler. Indirectement, oui. Mais, bon, on va y revenir dessus probablement, mais les causes de ce problème de ménisque peuvent servir à d'autres personnes en fait. Il y a des bêtises qu'il ne faut pas faire et que j'ai fait à l'époque et maintenant. Et à la limite, c'est bien que je l'ai fait quand j'étais jeune, parce que de toute façon, je l'aurais fait un jour ou l'autre,
D'accord.
cette bêtise.
Alors, on va pas trop en dire pour l'instant de ce ménisque, ce qui s'est passé à cette époque-là.
Non.
Mais en quelle année tu as été En quelle année ça arrivait en fait?
C'est arrivé en 2001. Alors, ça fait partie de l'histoire, en fait, ce problème-là. Mais ça m'est arrivé en 2001, sachant que je me suis fait opérer du ménisque le 20 janvier 2002.
Donc il y a
C'est-à-dire
19
il y
ans.
a 20 ans.
19 ans.
Ouais, 19 ans,
Voilà.
oui, exact, 19 ans.
Et donc en 19 ans, tu as quand même couru encore et encore.
Et plus qu'avant d'ailleurs, oui, tout à fait. Il y a eu des tas de circonstances, mais c'est vrai que c'est un poème, mais il y a eu des tas de circonstances qui ont fait que tout le monde me disait autour de moi, enfin notamment le corps médical, et j'en suis, c'est souvent ce qui se passe, c'est tu as une arthrose qui s'est développée, on a vu ça à l'opération, faut que tu arrêtes de courir, faut que tu diminues, etc. Et il s'est passé que dans ces époques-là, j'ai entendu une émission de radio d'un professeur suisse qui suggérait de faire l'inverse.
D'accord.
On va y revenir
On va y
justement.
revenir, oui.
Et, ouais.
Parce que, il faut le dire, hein, tu as dit que tu avais fait une centaine de courses de plus de au-dessus du marathon. Et donc,
Ouais.
dans ces 19 ans-là, bien sûr, tu as couru du marathon, de l'ultra, de la diagonale, etc.
Ouais, j'ai refait trois marathons des sables, j'ai fait l'UTMB, j'ai fait 4 fois la diagonale, et puis j'ai surtout fait pas mal de courses à étapes également dans les déserts entre le Chili, l'Égypte, le Sahara, etc., la Chine aussi. Et puis des 24 heures, j'ai fait des 24 heures, des 100 km, enfin voilà.
Voilà, bon, bah, je suis rassuré, c'est-à-dire que ma carrière n'est pas terminée.
Pour compléter, donc il y a les courses effectivement, mais il y a aussi l'entraînement. Et après, hein, après m'être fait opérer, j'avais souvent, enfin, il m'est arrivé d'avoir plaisir à dire, j'ai fait plus de kilomètres en courant cette année que la voiture de mes beaux-parents n'en a fait. Ouais, je faisais 4 5 000, 6 000 km dans l'année en entraînement,
D'accord. Ce qui fait
avec
un...
des semaines à 200 km en moyenne.
Ouais, ça fait un, quand même un énorme volume, j'ai envie de dire.
Ouais, pas mal. Avec un genou qui avait été opéré.
Avec un genou qui était opéré. Alors, on va revenir
On
sur ce
efface
genou.
l'histoire, hein.
On va revenir sur ce genou, justement. Pourquoi, d'où vient le problème, en fait? Comment tu t'es fait mal? D'où vient la fameuse bêtise?
Alors, je vais mettre un certain temps parce qu'il y a toute une. Voilà. Ça part de 2001 où je fais le marathon des sables. Et c'est mon premier marathon des sables et je pars avec une fracture du calcanéum. c'est l'os du talon sous le pied là, qui à force d'entraînement, notamment dans la neige, a tiré sur l'os et a fait une fracture en fer à cheval, ça s'appelait, que je n'ai appris qu'en rentrant du marathon des Sables. 3 semaines de récup sans courir, ça s'est bien passé, j'ai repris, et dans la foulée, je fais des marathons, machin, et je m'entraîne pour les championnats du monde des 100 km au mois d'août. Donc, au mois d'août, je fais les championnats du monde des 100 km, tout se passe bien, je dois faire dans les 8h, 8h10, 8h15, un truc comme ça. Et je me sentais un peu fatigué, et ou du moins, j'avais aussi la conscience de dire, il faut que je repose mon corps. Donc, je n'ai pas couru pendant un mois. Le mois se passe, j'avais très envie de recourir. Je reprends au club d'athlétisme où j'étais. Je fais une séance le jeudi, une séance de VMA direct. Tout se passe bien. Et il y avait le dimanche suivant, donc jeudi entraînement, le dimanche suivant, il y avait une course de 10 km qui était organisée par un des membres du club à une trentaine de kilomètres de chez nous. Mais c'était un 10 km sans prétention. On traversait même un champ en descente. Et c'était une boucle de 3 fois. Oh, ben, je dis, je me sens bien, je vais aller faire ce 10 km. Et je m'aligne sur le départ. Et puis j'étais plein d'énergie. Hein, ça faisait un mois sans courir. T'es très en forme. Et je pars. Et je fais mes 10 km. Et bon, tout se passe bien. Le soir, on est sur place. Parce que l'organisation faisait des moules frites. On n'était pas très loin de la mer, hein, du côté du Mont-Saint-Michel. Eh ben, on mange. Et puis, en plein repas, je dis, mais c'est bizarre, j'ai un genou, j'ai mon genou qui... Maintenant, c'est le genou droit. Maintenant, ça me revient. Parce que hier, je ne savais plus quel genou j'avais fait opérer. Hein. Et maintenant que je me remets dedans, le genou droit qui est à plein, gonflé, mais vraiment très gonflé. Bon, je dis, tiens, c'est bizarre. Et puis, je ne pouvais plus plier le genou.
D'accord.
Bon. Repos. Je vois kiné, je vois ostéo, je vois tout ça. Et en fait, ça traîne, ça traîne. Et à chaque fois que je voulais refaire un effort de course, à chaque fois, paf, le genou gonflait. En fait, c'était une algodystrophie. L'algodystrophie, c'est un cycle d'inversion du liquide synovial, c'est-à-dire qu'il y a une régulation du liquide synovial pour que le genou fonctionne avec un lubrifiant, sauf que là, il y a des micro-lésions ou des lésions qui font que la synovie remplit le genou complètement. Alors, j'ai eu une ou deux ponctions d'ailleurs de synovie pour redégonfler le genou, mais toujours pas possible de courir. Et j'étais inquiet parce qu'à l'époque, je repartais au Marathon des Sables en avril 2002. Donc, il fallait que je, dans mon esprit, il fallait que je m'entraîne pour repartir au Marathon des Sables, pour faire mieux que ce que j'avais fait l'année d'avant. Mais bon, bah, voilà, psychologiquement, ça prend la tête, ça ne se guérit pas, et j'y arrivais pas. On en arrive au point où, fin décembre, aux alentours du 15-20 décembre, bah, je vois un spécialiste qui me dit bah, « on va vous faire une ponction, on va vous faire, non, une infiltration pour assécher le genou ». Par contre, et c'est là la bêtise, elle découle de là, infiltration, ça veut dire on est au moins 10-15 jours sans courir.
D'accord.
Donc je vous conseille, parce que ça va dégonfler, machin, de ne pas courir. Ok, bien madame, pas de problème, je me vois encore. 5 jours après, le genou, il était nickel. J'avais aussi essayé de faire du vélo pour me soigner avant, mais ça n'avait pas marché. Donc, du coup, là, je reprends. Au bout de 5 jours, le genou, il est complètement dégonflé. Tout va nickel. Je dis, je vais essayer d'aller courir quand même, quoi. En fait, je pars courir. Je fais 2,5 km. Je reviens. Je me sentais vraiment super bien. Je dis, tiens, bah, je vais faire une accélération gentille sur 1 km. Et là, j'ai fait 500 mètres. Et au bout de 500 mètres, le ménisque a pété. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai couru sur un genou sec.
D'accord.
Et ça m'a pété le ménisque.
D'accord.
Donc, du coup, je pouvais plus marcher là, hein, c'était mort. Hein. En panique un petit peu, j'interroge un chirurgien qui était dans une clinique qui était réputée d'ailleurs, docteur Pazard, à Rennes. Il me dit, je vais le voir. Il me dit, bah, écoutez, on va faire, je sais plus ce que c'est les termes techniques, mais on va pas faire d'IRM, on va pas faire de rien. Je vais regarder avec, ah voilà, je vais faire une arthroscopie et en fonction de ce que je vais voir, bah, je vais ou opérer ou pas opérer ou enlever un bout ou pas enlever. Enfin voilà. Et en fait, ça a été très très vite puisque j'avais toujours dans l'esprit de partir au Marathon des Sables quand même, hein.
Ouais.
Je me suis fait opérer le 20 janvier 2002. Ils m'ont enlevé un bout de ménisque que j'ai gardé. Alors, bien, hein, parce que j'ai regardé la télé, hein, parce que c'était sous. Enfin voilà, ils m'avaient insensibilisé par une péridurale que la
Ouais,
jambe
c'était une
d'ailleurs.
péridurale, hein, c'est ça.
Ouais, j'ai eu une péridurale. Et puis je regardais à la télé ce qu'ils étaient en train de faire dans mon genou. Ça me secouait, c'était génial, enfin marrant, je sais pas, mais bon. Bon, bah, ok, je suis rentré. Ça, il a fait ça, je dirais en urgence, puisqu'il m'a fait quand même le dimanche matin. Il a pris sur son temps, il était de garde ce dimanche-là, il l'a fait le dimanche matin. Je suis sorti de l'hôpital le dimanche soir. Il m'a dit, oh, quand même, attendez 3 semaines avant, machin, etc. Et en fait, j'ai jamais pu recourir.
D'accord.
Jamais pu recourir pour partir au Marathon des Sables, puisque à la suite de ce truc-là, j'ai redéclenché une algodystrophie.
D'accord.
Ce qui faisait qu'à chaque fois que je faisais un effort, à chaque fois, le genou regonflait. Mais bon, quand tu es dedans, ça te prend la tête et vraiment, c'est chiant, quoi. Alors, il y avait un autre phénomène, c'est que non seulement j'étais inscrit au Marathon des Sables que j'ai pas pu faire au mois d'avril, mais j'étais aussi inscrit pour aller faire les foulées de la soie en Chine, qui est une course qui avait lieu au mois d'août sur 3 semaines, où globalement, schématise, hein, mais c'était 3 semaines de course avec à peu près un semi-marathon par jour
Ouais.
qu'on faisait. Je crois qu'elle n'existe plus, cette course-là. En fait, on était à peu près 200 à partir en prenant l'avion de France. Et on faisait un semi-marathon dans une province différente quasiment chaque jour. Donc on a fait un super truc. Mais bon, enfin, parce que j'ai fini par le
Donc t'as
faire quand
réussi à le
même.
faire, ça.
Ouais, je donne tout de suite l'aspect positif des
Ouais, c'est
choses.
ça, ça
Alors,
me rassure un peu.
j'ai pas pu courir pendant un certain temps. Et puis, en désespoir de cause, je suis allé voir un professeur de médecine sportive qui s'appelait Roche Congar, qui était réputé parce qu'il soignait les footballeurs, il soignait tout un tas de gens. Voilà, je suis allé le voir avec mon dossier en lui disant, écoutez, je crois que c'était début avril, je pars faire une course en Chine le 3 août. J'ai un genou comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire que pour moi? Il a regardé tout ça, il m'a dit, bah, écoutez, je vais vous faire recourir, vous irez là-bas, vous n'irez pas faire une performance, par contre, vous irez courir si vous suivez scrupuleusement tous mes conseils. Et j'ai repris à courir, je crois que c'était le 1er juin. J'avais 2 mois d'entraînement, juin et juillet, et il m'a fait recourir, parce qu'en partant, enfin, c'est lui qui m'a fait mon plan d'entraînement en me disant, voilà, alors j'ai eu un traitement, il m'a donné un traitement pour médicaments, hein, pour dégonfler le genou. Une fois que ça a été dégonflé, ça a mis un mois, son traitement. Une fois que le traitement a eu l'effet, il m'a fait recourir, je crois, la première fois, c'était 10 minutes. En trottinant tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et il augmentait de 5 minutes à peu près toutes les semaines, à partir du mois de juin. Et quand je suis parti fin juillet, je n'avais pas couru plus d'une heure.
D'accord.
Mais il m'a dit, c'est les 2 premiers mois qui sont les plus importants à ce moment-là. Il m'a dit, après, bon, vous allez trottiner, hein, vous n'irez pas vite, mais vous sentirez dans le genou un moment où vous pourrez le faire ou vous ne pourrez pas le faire. Et effectivement, quand je courais mes semi-marathons, je sentais qu'il y a des moments où le genou marchait bien et des moments où le genou, il ne fallait pas que je tire dessus. C'était extrêmement curieux. Et même s'il regonflait un petit peu, le lendemain, il était redevenu normal et je pouvais repartir. Et ça m'a fait un excellent entraînement de reprise, hein, 3 semaines de semi-marathon. Je suis reparti. J'ai refait, je crois bien que j'ai refait un marathon je me demande si j'ai passé La Rochelle au mois d'octobre. Et je suis redescendu sous les 3 heures, quoi.
D'accord. Et
donc,
finalement,
j'ai retrouvé ma performance. Je considère un an avant de commencer à retrouver de la performance.
Ouais.
Mais c'est vachement positif, quoi.
Finalement, qu'est-ce que le genou, on lui a mis les guéris, ou est-ce que derrière il y a eu des rechutes? Est-ce que
Alors, il s'est trouvé. Oui, il est guéri, hein. Pour moi, il est totalement guéri parce que si j'avais, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait là. Mais dans l'esprit, y compris ce professeur m'avait dit, de toute façon, tu recourras pas forcément. Va falloir te calmer. Celui qui m'avait opéré m'avait dit, tu as une arthrose de 4 sur 5. Donc, c'est pareil, hein, ça va être limité quand même. Et il s'est trouvé, alors je pense que ça a mis un an, c'est l'année d'après, j'ai écouté une émission, vraiment une émission par hasard sur le sport, d'un professeur de médecine sportive suisse, donc je reviens à ce que je disais au départ, qui expliquait, alors c'est une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, moi je l'ai prise pour moi, après, voilà, qui disait, en fait, je schématise que moins tu as d'activité sur les articulations, plus elles sont friables et plus elles sont usables,
oui,
entre guillemets. Plus tu as d'activité, plus ton cartilage se renforce et moins tu l'uses. Lui, c'était sa théorie. Oui. Et donc, d'expliquer, en même sur l'histoire des genoux, entre autres, il se passait. Alors, je prends des précautions parce qu'entre ce que j'ai entendu, ce que j'ai cru entendre et ce que j'ai perçu, il peut y avoir des écarts.
Bien sûr, toujours.
Mais je l'ai perçu, moi je l'ai entendu comme étant je continue de courir, mon cartilage se surface. En fait, c'est-à-dire qu'au lieu de se ramollir, puisque je cours, alors, il y avait aussi des précautions qui allaient avec, hein, mon cartilage, à force, se surface, se durcit et s'use plus. J'ai toujours gardé ça en mémoire. Et en fait, j'ai continué de courir, j'ai couru de plus en plus à la limite. De temps en temps, quand il y a une météo, surtout l'hiver, qui est très humide et froide, je ressens un frémissement de quelque chose, mais voilà, c'est rien. Et ça fait 20 ans que je fais, je sais pas, entre 3000 et 5000 km par an, quoi.
Ouais. Il faut le dire pour ceux qui ne savent pas, hein, le ménisque, c'est une jonction entre le tibia et le fémur, finalement, hein, qui fait qui est dans l'articulation entre les deux os. Et c'est vrai qu'il y a le cartilage de chaque côté, hein, qui est un élément important.
Le ménisque, c'est un espèce de petit coussin entre les deux cartilages. Hein, c'est ça. Alors, par contre, je dirais que c'est assorti d'une rigueur sur les entraînements.
D'accord, c'est ce que j'ai demandé justement. Comment on s'entraîne?
C'est assorti d'une rigueur sur les entraînements. Alors, il s'est passé aussi que depuis, j'ai eu la chance pratiquement, enfin la chance ou l'envie, dans la foulée de cette histoire, de m'informer et de devenir entraîneur. Donc, j'ai suivi une formation d'entraîneur. J'ai beaucoup appris de ce côté-là. Ça m'a surtout évité de faire beaucoup de bêtises sur les entraînements. Probablement que ça m'a aidé aussi. Et le principal, avec du recul, le truc le plus important, c'est l'échauffement. C'est l'échauffement. C'est systématiquement, si on veut durer dans le temps, si on veut ne pas s'abîmer. Bon, il faut savoir que le corps donne ses meilleures capacités à 39 degrés et demi. Donc en général, on est plutôt à 37, 37 et demi. Il y a 2 degrés à prendre de température. Si on les prend trop vite, c'est pas bien. C'est un problème d'acide lactique. Si on peut prendre tout son temps pour monter en température, et il faut surtout prendre son temps. Quelle que soit la séance que je fais de course, je me suis toujours échauffé au minimum 25 ou 30 minutes. Mais très lentement. C'est entre du 8,5 et du 9 à l'heure, quoi. Quand on est capable de faire un marathon à 15,5, quoi. Hein, quand on a... J'avais une VMA à l'époque pour les techniciens de 19, hein. 19, mais je m'échauffais à 9 à l'heure, quoi.
Ouais, alors ce qui est pour moi un truc au club où ça paraît incroyable, c'est qu'ils partent tous comme des balles en fait.
Alors il y a, oui, alors ça c'est une autre, je dirais c'est un autre volet, c'est l'aspect entraînement.
Ouais.
On pourra y revenir, mais par rapport à l'aspect santé à proprement parler, notamment pour les ménisques, notamment pour les articulations, c'est un passage obligé. L'échauffement et la récupération. Les 5 à 8 à 10 minutes de récupération, même sur une sortie longue. Hein.
Ouais.
Hein, même sur une sortie longue. Hier, on a fait 3 heures. Samedi, 2 heures. Il y a toujours un moment où on est 8,5, 9 à l'échauffement, 8,5, 9 à la récupération derrière. Entre les deux, on peut se faire un peu plaisir. Mais c'est un passage obligé que j'ai scrupuleusement respecté. Je crois pouvoir dire que ça, c'est un truc. J'ai jamais fait un entraînement en partant à 11 à l'heure, quoi. Jamais, même des courses, hein, d'ailleurs. Les 24 heures, j'ai toujours dans cette logique, en fait. J'ai vu faire des 24 heures, enfin, notamment 24 heures de Séné en 2007. Au bout de 5 heures de course, j'avais 3 à 4 km de retard sur le premier, on va dire ça dans ce sens-là. C'est important, c'est beaucoup. Ouais. Mais à un moment donné, on sent son corps. Parce que j'avais du retard parce que j'étais parti extrêmement lentement. J'ai remonté tout le monde et j'ai terminé, je crois, ces 4 km devant le deuxième.
D'accord.
En fait. Parce que quand on s'écoute son corps, on sent les moments où il faut aller, notamment aller légèrement plus vite une fois qu'on est parti en échauffement.
Donc, on le sent. Voilà. Donc la grande logique, c'est un bon échauffement dans tous les cas, mais on peut le recommander à tous les coureurs, cette histoire-là.
Ah, mais c'est pas à recommander, ça devrait être une obligation. Ça devrait être une obligation. Je ne sais pas si on parlera plus de l'entraînement. Je ne voudrais pas dévoiler pas mal de choses, mais sur l'entraînement, on peut quand même aussi. Je prends souvent l'exemple, l'entraînement ou le corps humain, c'est un peu comme un moteur. On imagine que j'ai un moteur diesel. Je démarre le matin, il fait moins 5 ou moins 6 degrés dehors. Je démarre mon moteur. Et je pars à fond sur l'autoroute. Forcément, le moteur va chauffer, il va fumer noir, parce qu'il n'est pas très content, et à l'usage, au lieu de faire 300 000 km, il va faire que 150 000 km. L'humain, c'est pareil. Le muscle est un moteur. Ce moteur, il est alimenté par de l'oxygène et par un carburant qui va être du sucre, les graisses, etc. Et si on le fait fonctionner alors qu'il n'est pas chaud, ce moteur, en fait, le retour veineux de l'acide lactique, puisque on va le faire fonctionner très fort, ce moteur, tout de suite, on va donc générer de l'acide lactique, qui est un petit peu la fumée noire du moteur diesel.
Ouais, qui est du déchet, quoi.
Mais voilà, le déchet. En fait, comme on n'est pas à température, l'évacuation des déchets se fait mal, voire pas du tout, parce que le retour veineux, il n'est pas à bonne température, entre autres. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'acide lactique va s'accumuler dans le muscle, il va rester dans le muscle. Et une fois qu'il est là, pour l'éliminer, eh ben, walou, quoi. Mmh. Donc on va générer un effort sportif sur un muscle qui est encrassé. Et ça mène à la blessure. À un moment donné, ça mène à la blessure. Ça va être le muscle, le tendon, ça va être tout un tas de trucs qui peuvent... voilà.
Donc, tout le monde s'échauffe.
Pardon ?
Donc, il faut tout le monde, quel que soit le problème, enfin, qu'on soit en bonne santé ou quoi que ce soit, dans tous les cas, échauffement obligatoire.
Ah ben, évidemment. 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 On fait fonctionner son corps en effort d'une manière optimum qu'à partir du moment où on atteint cette température. Donc, il faut l'atteindre tout doucement pour arriver à la température sans avoir d'acide lactique déjà chargé. Mm. Et après, tu peux lui demander un petit peu tout ce que tu veux. La récupération, après un entraînement, servira à éliminer une partie de l'acide lactique par une circulation du sang qui dure 5-10 minutes et on va gagner énormément de temps sur la prochaine séance. Bon, ça mériterait d'être vérifié. J'estime que pour sortir l'acide lactique du corps, on va prendre un exemple, quelqu'un qui part faire une séance d'entraînement, et c'est souvent le cas de beaucoup de gens, hein, ils vont faire une heure ou une heure et demie, ils vont faire leur séance d'entraînement et ils vont souvent essayer d'accélérer à la fin. Ils arrivent à la voiture, ils sont tout rouges, et hop, ils s'arrêtent. Et en fait, ils se sont chargés d'acide lactique et ils arrivent à la voiture chargés. Ils vont mettre 48 heures pour éliminer l'acide lactique. Alors que s'ils avaient fait une récup de 10 minutes, tu divises par deux les temps de récup derrière. Donc, celui qui va courir tous les jours, par exemple, et qui va s'arrêter chargé d'acide lactique tous les jours, à un moment donné, ça s'accumule dans le corps et ça va péter. Celui qui, hein, tu vois, il n'a pas eu le temps d'éliminer et il recharge à chaque fois.
Ouais. Alors c'est un sujet dont on reparlera dans un autre épisode parce qu'on a prévu en fait d'autres épisodes sur le sujet, sur l'entraînement, sur notamment des conseils aux débutants, donc on va pas trop en dévoiler plus. Mais c'est vrai
que... Bah c'est pour ça que tu m'as embarqué sur le sujet.
Et oui, mais tu sais, je suis curieux parce que je me dis comment ça va se passer, moi, une fois que mon genou va être opéré, est-ce que je vais devoir m'échauffer encore plus qu'avant, est-ce que je vais devoir faire de la récup, est-ce que je dois faire des étirements, est-ce que je dois le masser, est-ce que je dois faire des... Comment je prends soin de mon genou, j'ai envie de dire, tu vois. C'est aussi la question que je me pose.
Alors, j'ai pas les massages. Tout dépend de draps, probablement de l'opération telle que tu l'auras. Là, je suis pas médecin pour dire de la rééducation, du kiné, de l'électrostimulation. Je sais pas ça, en fait. Je pense que si l'opération se passe bien et que tu as la chance de ne pas faire d'algodystrophie, parce que moi, c'était le truc derrière, hein. Si tu as la chance de ne pas faire d'algodystrophie, je pense que de toute façon, il ne faudra pas penser que tu retrouveras ton niveau, même si les médecins te disent 2 mois, pour moi, c'est minimum 6 mois. Hein. Alors, tiens, puisqu'on en parle. Je sentais des fourmillements dans le genou. Je les ai sentis pendant encore au moins un an. Il y avait une espèce d'insensibilité où quand je tapais sur le genou, je sentais pas je le sentais pas. Voilà. Donc ça a duré au moins un an. Ça m'empêchait pas de trottiner, de courir un peu, tu vois. Et vraiment, vraiment, je n'y ai plus pensé du tout au bout de 3 ans. Ah, et puis maintenant, j'en suis arrivé au point où je disais hier, je ne sais même plus de quel genou je me suis fait opérer. J'y ai réfléchi, ça m'est revenu ce matin, tu vois. Mais donc du coup, c'est quelque chose que tu oublies complètement avec le temps. Ce qui est intéressant, c'est l'espoir que ça suscite. Enfin, si je prends mon exemple, celui qui, pour moi, fait attention derrière, à bien s'entraîner, prendre le temps de l'échauffement, ça peut durer une éternité. Hein.
Moi, mon médecin m'a dit, le chirurgien m'a dit, de toute façon, ne pouvait pas reprendre l'entraînement avant 3 mois, déjà, c'est ce qu'il m'a annoncé. Puis il m'a dit, après, oui, il va falloir y aller tout doucement. Il m'a dit, le marathon en octobre, il m'a dit, oui, potentiellement. Il m'a dit, tout doux.
Ouais, c'est limite raisonnable. Oui, c'est limite raisonnable. Mais ça dépend comment sera la réaction du corps, en fait. Hein. Ça dépend comment sera. Mais je pense que la méthode de reprise, mais de toute façon, d'une manière générale, la méthode de reprise après un arrêt, c'est maximum 20 minutes la première séance, quoi. C'est 20 minutes tout doucement, pendant 3-4 fois. Alors, ça dépend si on court tous les 2 ou 3 jours. Mais, et puis après, on augmente gentiment de 5 minutes. Il vaut mieux prendre le temps. Il vaut mieux mettre 2 mois de plus pour arriver à recourir normalement et être sûr de son coup plutôt que l'inverse, quoi. Dire, je vais essayer de gagner quoi, 15 jours sur mon entraînement pour arriver à quoi, à quel niveau, tout en ayant un risque, c'est dommage, quoi.
Je me posais une question. Est-ce que tu penses que ça t'a changé ta manière de courir? Au niveau de technique, au niveau même de la... Bon, on a beaucoup parlé de l'échauffement, mais est-ce que tu faisais autant cet échauffement avant? Est-ce que tu as changé là-dessus? Et est-ce que sur la plan de technique de course, le pied, mais aussi on pourrait parler sur les chaussures, tu vois, par exemple, est-ce que ça t'a amené sur d'autres réflexions au niveau du matériel, de l'équipement, des choses comme ça?
Pas du tout. Je suis désolé, pas du tout. L'équipement, non. Au niveau des chaussures, j'ai continué... Après un an et demi, hein, quand j'ai repris, on va dire, les 10 km en termes de compétition, au sens compétitif, hein, je recourais avec des chaussures, j'allais dire, minimalistes. Hein, c'était la semelle la plus légère, enfin, ou la chaussure la plus légère possible. Hein. Ça ne m'a pas empêché de faire des crosses en pointe ou de faire de la piste avec des pointes aussi. Hein, donc, alors, ça m'a pas du tout. Non, de ce côté-là, j'ai pas. Oui, j'entends Leïla qui est en train derrière de me dire, tu changes de paire de chaussures. Alors, oui, elle fait bien de me le rappeler parce que j'y aurais pas pensé. C'est qu'en fait, j'ai en activité toujours, mais c'est pas lié forcément au genou non plus. Hein, mais je pense que ça n'est pas anodin. Je dois avoir entre 7, 8 ou 9 paires de chaussures en activité et d'un entraînement sur l'autre, je ne mets jamais la même paire de chaussures. Je cours toujours avec une paire de chaussures différente chaque jour.
D'accord. Pourquoi ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Si tu cours toujours avec la même paire de chaussures et qu'elle a un défaut, ou que toi, tu as un défaut avec cette paire de chaussures, un défaut d'amorti sur une chaussure, un défaut de quoi que ce soit, la répétition de ce petit problème peut générer la blessure. Je sais pas, par exemple, on imagine que sur une semelle, sur un amorti, l'amorti de la chaussure droite s'écrase un petit peu plus que celui de la gauche, et tous les jours, tu le répètes. Ça peut générer une douleur dans une hanche ou un genou. Ensuite, l'amorti d'une chaussure, quand tu cours tous les jours, puisque pour moi, courir, c'est tous les jours. Ouais. D'une manière générale, c'est 6 fois par semaine, et des fois, c'était souvent 2 à 3 fois par jour. D'une journée sur l'autre, l'amorti d'une chaussure ne se refait pas à 100%. Donc, de prendre une paire différente le lendemain, déjà ton amorti, il a eu le temps de la récup, et surtout, tu ne vas pas forcément retrouver ce petit problème que tu as pu avoir avec une paire.
Ouais.
Donc ça, c'est un truc, mais ça fait 20 ou 30 ans que je fais ça, j'ai toujours autant de paires. Ça n'a pas d'inconvénient financier, entre autres. C'est-à-dire que celui qui court avec une paire, il va faire, allez, 2000 km avec sa paire de chaussures. De toute façon, il est obligé de la changer. Si j'achète 5 paires, je vais faire 10 000 km. L'investissement, c'est le même. Et si je vais chez un... J'imagine un débutant qui dit, tiens, ou un débutant, ou quelqu'un déjà de confirmé, qui va dans un magasin de sport et qui va dire, ah, tiens, je vais acheter 5 paires de chaussures d'un seul coup. Ben, en fait, à l'usage, je vais je vais probablement les payer moins cher, mes 5 paires, si je les achète d'un seul coup, que d'acheter une fois 5 paires à un an d'intervalle. Financièrement, c'est peut-être même un avantage.
Est-ce qu'il y aurait un... Alors, est-ce qu'il faut varier, est-ce que ce soit des chaussures qui aient des caractéristiques différentes? Tu vois, par exemple, une qui est minimaliste, une qui a plus d'amorti, des marques différentes, ou... Ça serait quoi le conseil dans ce domaine-là, pour celui qui voudrait appliquer ce conseil-là, en fait?
Ça n'a... Pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui est le plus important, c'est le fait d'être bien dans le chausson. Plus ton chausson est agréable à mettre, tu cours avec plaisir. Il y a beaucoup de choses où le plaisir est important dans la course. Si tu as plaisir à mettre une paire de chaussures, parce que tu es bien dedans, parce que tu te sens bien tout simplement à courir avec, faut la mettre. Si tu mets une paire de chaussures qui est dure, où tu n'as pas, t'as pas la notion du plaisir, tu vas plutôt déclencher un effet négatif, en fait, et qui peut, pourquoi pas, potentiellement se terminer par un truc qui n'est pas terrible.
Oui, non, parce qu'on aurait pu se dire il faut varier les types de chaussures. Des drops différents peut-être, ou des choses comme ça, pour que le muscle travaille différemment.
De toute façon, de facto, à partir du moment où quand je dis courir avec des paires de chaussures, c'est pas les mêmes marques, c'est pas les mêmes modèles.
Voilà, c'est ce que je voulais te poser.
Je vais pas acheter 5 paires de chaussures du même modèle, de la même marque. Ceci dit, j'achète jamais les chaussures par 5. Hein. En général, c'est par 2. C'est par 2. C'est jamais la... Et puis, ça permet aussi de tester d'autres des marques, des nouveautés, des nouveaux modèles. Et par définition, comme tu ne prends pas les mêmes marques, les mêmes modèles, ils n'ont jamais le même drop, elles n'ont jamais le même... Et donc, parce que ça peut revenir, si on pousse le bouchon aussi loin... je prends le même modèle de chaussures, mais en 5 exemplaires. Si le drop n'est pas bon, je peux peut-être avoir le tendon d'Achille qui va finir par souffrir.
Oui.
Alors que si aujourd'hui je suis avec un drop de 10 et que demain je suis avec un drop de 5, en fait, mon tendon, il n'aura pas eu le temps de se blesser.
Oui, tu préserves aussi d'une manière ou d'une autre, et puis tu évites
de s'installer dans la routine.
Ouais, de s'installer dans la routine et puis de générer un problème complémentaire finalement qui viendrait de la même chaussure. Ouais. Quoi.
Tout à fait.
Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ça fait partie des expérimentations que j'ai fait. Moi, j'ai couru pendant tout le temps avec les mêmes paires, les mêmes modèles, etc. Et puis là, je commence un petit peu à changer, tu vois, de choses. Et je me disais, mais est-ce qu'il faudra que j'ai des chaussures qui ont plus d'amorti, tu vois, par rapport à mes genoux? Parce que le chirurgien me dit, le ménisque, il gère l'amorti aussi entre les os, oui. Quoi, quelque part. Et donc, c'est une question. Et puis, quand je lui pose la question, lui, il n'a pas vraiment de réponse. Hein, c'est un peu, il me dit, ça va dépendre un peu de moi, quoi.
Oui. Bon, une chose est certaine, c'est que dans la tête, ça va rassurer de prendre une chaussure avec un gros amorti. Non, si ça rassure la tête, la tête, elle mène beaucoup hein, quand même. Donc, faut le faire. Faut le faire. Ça me fait du bien de penser que si je prends une chaussure avec un bon amorti, je vais éviter de me surblesser. Il faut le faire. Et puis, avec le temps, ça va passer à autre chose. Et puis... Puis ça va varier, quoi. Prends ce qui te fait plaisir. Prends surtout ce dans quoi tu vas te sentir bien. Hein? Et effectivement, prends des modèles différents sur des marques différentes. Ça va... Voilà. Alors, il y a autre chose qui, à mon sens, est bon de savoir. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas si vraiment... ça a une influence ou pas sur... Enfin, je sais que ça a une influence sur les blessures d'une manière générale. Lié au genou particulièrement, je ne sais pas, mais à mon avis, ça ne peut pas faire de mal de le savoir. En fait, c'est la foulée.
Oui.
Notamment, oui, mais notamment la foulée des bras.
Ah, ah oui, alors celle-là, on ne s'attend pas. Hein.
En fait, si tu regardes des gens qui courent, des joggeurs, peu importe, que tu les observes, souvent, tu vas voir des coureurs, mais y compris dans l'élite, hein, y compris dans l'élite, jeunes, qui ont des performances de l'ordre de 2 heures au marathon, on les voit avec les poings légèrement serrés et les mains au-dessus des coudes, en fait. Hein, et les gens courent, on s'imagine, ils courent et ils sont comme ça. Et en fait, ça a une répercussion sur le métabolisme du corps, en proprement parler, dans la mesure où, déjà, quand tu as les mains au-dessus des coudes, tu es plutôt contracté au niveau des biceps, tu es contracté au niveau des cervicales, et puis ça finit par un moment donné, t'as un peu, ça te fait, voilà. Et ça va plus loin, en fait. Si tu baisses tes mains au-dessus de tes coudes, tu vas un petit peu relâcher tout ça. Et surtout, alors il y a un autre phénomène, c'est que ça va t'ouvrir la cage thoracique. Déjà, pour commencer, tu vas mieux respirer. Et surtout, en fait, si tu regardes les gens qui courent comme ça, ils ont le mouvement où toute l'énergie va plutôt sur les côtés plutôt que dans l'axe. Et en fait, tu as les épaules qui vont dans un sens, le bassin qui va dans le sens inverse des épaules, les genoux qui vont dans le sens inverse du bassin et les chevilles qui vont dans le sens inverse des genoux.
Ouais, donc on se vrille, quoi.
Et donc, en fait, on court en vrillage. Ouais. À un moment donné, forcément que ça a une influence sur un petit truc qui coince au niveau de la hanche, un petit truc qui coince au niveau du genou. Et on va se retrouver avec des tendinites, y compris de la patte doigt, parce que ça va avoir une influence.
Mais ça ne m'étonne pas, cette histoire-là, parce que quand je vais chez mon ostéo, ça fait 3 fois que je vais chez l'ostéo, il me dit « mais vous êtes tout bloqué en diagonale et, », et je pense que je cours un peu dans en étant tordu comme ça, en fait.
Eh ouais. Alors, quand tu cours pas forcément très vite, c'est pas... Enfin, voilà, ça a une influence, mais elle est ce qu'elle est. Plus tu vas te mettre à courir vite, et plus ça va avoir de l'influence. Du coup, plus tu as des risques de te blesser.
Donc
par rapport au genou, ouais. Si on en revient au genou, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas anodin que de travailler la foulée des bras pour pouvoir travailler dans l'axe, en fait. Hein. J'ai beaucoup appris d'un gars qui était marathonien, qui s'appelait Michel Garcia, qui s'appelle toujours d'ailleurs Michel Garcia, en fait, mais c'était dans mes tout débuts, qui me disait la foulée des bras, c'est hyper important, et pour y arriver, c'est pas inné, hein, tu descends tes pouces sur la couture de ton short quand tu cours.
D'accord.
Tu descends ton petit pouce sur la couture de ton short. Et ça va te faire avoir forcément les mains sous les coudes. Et ça fait partie de la bonne foulée. Et si tu regardes les gens à la télé, les gens qui font du 400, ou si tu vas dans un meeting, regarder les gens qui font du 400 ou du 800. Alors, surtout sur les petites distances, sur les 100, les 200 et les 400, et si tu les regardes, ils ont une foulée des bras qui est extraordinaire. Les mecs, ils vont chercher derrière. Le bras, il va aussi loin derrière que devant. Et quand ils sont en action, tous les bras, puisqu'on va rester sur les bras, sont en action pour aller vers devant et non pas des mouvements parasites qui font que ta force, elle va un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Non, toute la force, toute l'énergie que tu y mets, elle va dans l'axe. Et pour s'y entraîner, justement, ce qui est intéressant, c'est quand tu fais sur piste, tu prends les lignes blanches. Quand tu es dans un couloir, tu as les lignes blanches et tu te forces à avoir les mains avec les doigts tendus qui suivent la ligne blanche. Et avec le temps, voilà. Et ça, c'est quelque chose que tu peux travailler à condition de ne pas courir vite non plus.
Ouais.
Il y a des moments, pour démarrer, il faut le faire lentement. Et puis au fur et à mesure, voilà.
Oui, mais ça rentre petit à petit. Et mais c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'avais fait un jour j'avais fait un petit peu un party comme ça dans un épisode en disant que ceux qui courent avec un téléphone dans la main, tu sais, et pas au bras hein, ou quoi, mais vraiment dans la main,
Ouais.
se détériorent leur foulée à cause de ça, parce que quand on prend un téléphone dans sa main, si on fait l'expérience, on tient pas la main comme ça en vertical, on a une tendance à tourner comme ça. Et effectivement, ça
C'est
rentre
pire.
dans cette histoire de fouler des bras, en fait, aussi, qui est vrai. C'est que dès qu'on a quelque chose dans la main, d'un coup, la main, elle change aussi d'un petit peu d'axe.
Mais c'est même pire que ça. C'est une clé de voiture. Moi, je fais partie des gens qui sont opposés à ça. C'est les gens qui ont des gourdes dans les mains.
Ouais.
Il y a des gens qui font 2 heures avec une gourde dans la main, même si elle n'est pas grosse, mais des fois, au début, c'est 1 millilitre, hein, c'est 500 grammes, c'est pas anodin.
Non.
Ouais, même si à la fin, elle fait plus que 100 grammes ou 50 grammes, c'est pas anodin. Mais même une clé de voiture, en fait, ça a une répercussion qui est encore différente de ce que tu dis là, par rapport à la foulée, c'est qu'en fait, tu as un bras qui est contracté pour tenir la chose, même si tu penses que n'y a pas d'influence. En fait, tu as forcément une contraction dans le bras qui remonte jusqu'à la cervicale. Et ça, c'est la blessure assurée à un moment donné. Je sais pas quand, mais de toute façon, elle finira par une blessure.
Ouais, non mais c'est passionnant le corps, et on en avait parlé un peu avec Major Mouvement aussi sur ces notions-là, que c'est un ensemble, et où le moindre petit truc dans un sens peut provoquer on a parlé tout à l'heure de déséquilibre, etc. Et que finalement, moi c'est vrai que j'essaye de comprendre aussi pourquoi ce ménisque, il peut avoir un peu déconné. J'ai des souvenirs de ma jeunesse où j'ai eu des petits coups, mais c'est avec le foot, tu sais, des choses qui ressemblaient à des entorses, à des coups, je sais pas comment. Mais pourquoi est-ce qu'il a lâché là? Personne ne le saura jamais, mais maintenant je dois faire avec. Et là, on s'intéresse à la mécanique globale et on apprend encore plein de trucs.
Ouais, alors le ménisque. Le ménisque, souvent les gens qui ont des problèmes de ménisque sont des gens qui ont sauté, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est le basket, c'est le hand, c'est le tennis, c'est le foot. Alors, je devrais commencer par le foot, hein. Ce sont des gens qui ont sauté, ça, avec des micro-lésions au niveau du ménisque. Et c'est aussi des gens qui font du sport sauté. Au-delà d'un certain âge.
Ouais.
Quand tu es jeune, tu t'en aperçois pas. Et puis après 35 ans, beaucoup de gens continuent de faire du foot dans leur catégorie. Et j'allais dire rares les footballeurs, si je reprends les footballeurs, rares les footballeurs de 40 ans qui n'ont pas eu un ménisque qui a pété, quoi. Alors effectivement, il va peut-être pas forcément péter en action de foot tout de suite. Mais il va péter dans le domaine de la course à pied 1, 2 ou 3 ou 4 ans plus tard.
Ouais.
Il a déjà des micro-lésions qui l'ont fait se fragiliser, en
Ouais,
fait,
mais c'est
hein.
ce que m'a dit mon chirurgien en fait, hein. Il m'a dit que c'était sûrement quelque chose qui traînait depuis très longtemps, qui traînait, qui était là, où les lésions étaient là. Et il m'a dit, il peut y avoir des choses. Alors, est-ce que c'est la corde à sauter? Est-ce que c'est, tu vois, ou
Ouais.
peut-être sur du trail, tu vois, avec la neige, avec des appuis différents, dans les descentes,
Oui,
peut-être des
ah
appuis,
bah.
qui font qu'à un moment donné, bah, il finit par lâcher plus, et que c'est là où d'un coup, bah, le genou, il gonfle, comme tu disais tout à l'heure, quoi.
Ouais, tout à fait. Ah ben, oui, la course à pied va finir le travail qui a été commencé il y a longtemps, à l'occasion d'un trail, oui, où tu sautes un ruisseau, tu sautes quelque chose, et puis voilà, quoi. Ça ne va pas forcément être tout de suite, d'ailleurs, ça peut souvent à chaud, ce n'est pas forcément là qui va péter. C'est quand tu vas être à froid derrière et que tu vas monter ou descendre d'une chaise, tu le fais à froid et paf, c'est là qu'il va péter.
J'avais une question sur le finalement, Est-ce que tu sais, t'as des exercices de renforcement, de choses comme ça par rapport au genou, tu vois? Là, on va revenir vraiment sur le genou, mais est-ce que y a des, ou peut-être faut travailler la souplesse, parce qu'on sait que la course à pied raidit beaucoup le
Alors,
corps, hein, et que c'est un élément qui est extrêmement important. Est-ce qu'il y a des choses à faire quand on sent un peu mou du genou ou un peu en difficulté avec ses genoux?
ouais, alors il y a surtout une chose qu'il ne faut pas faire, qui est une catastrophe pour le genou, c'est un étirement du quadriceps. Où, alors il faudrait que je te le montre, c'est-à-dire que tu es debout, tu prends ton pied et tu te le colles aux fesses derrière, tu sais, tu tires par derrière. Hein? Alors beaucoup de gens le font en essayant de tirer au maximum sur le pied pour se le coller sur la fesse. Et alors, si tu le fais très bien ce mouvement, tu as deux solutions. Ou tu le fais mal, et à la limite, je vais dire, tu risques pas grand-chose, parce que en fait, quand je dis tu le fais mal, c'est que tu n'es pas gainé. C'est-à-dire que si tu n'es pas gainé, que tu tires derrière, ok. Maintenant, si tu gaines vraiment, que tu tires sur ton quadriceps avec ton, hein, enfin, en tirant sur le pied derrière, en fait, tu vas mettre ton genou en hypercompression. Tiens, il est, il se, voilà, et tu sens que tu tires dessus. Et en fait, là, tu peux te péter le ménisque parce que tu le mets en hypercompression, parce que tu as ramené ton pied sur ta fesse. Alors que tu peux arriver à faire le même étirement. Mais en laissant ton pied 20 cm derrière ta fesse, mais en poussant ton genou, c'est-à-dire que c'est ton genou que tu essayes de mettre derrière et non pas ton pied que tu ramènes. Et auquel cas, ton angle de flexion, enfin ton angle de repli de ton genou, il n'est pas à fond, il est légèrement ouvert. Et auquel cas, ton genou, il est tu fais un effort d'ailleurs, enfin, tu fais un meilleur étirement d'ailleurs de ton quadriceps. Par contre, tu te bousilles pas le genou en faisant ça. Donc ça, c'est un truc, faut surtout pas. Hein, voilà, je crois que tu as compris.
Ouais, mais moi en fait le chirurgien l'autre jour on en discutait et il m'a dit il y a des exercices, quand il a regardé mes jambes il m'a dit oulala, il m'a dit vous êtes raide, mais il m'a dit vous êtes raide des ischios, et il m'a dit ça par contre faut vraiment travailler la
Ouais.
souplesse, et notamment je le dis, bon c'était pas le but de l'épisode, mais moi j'ai un syndrome rotulien aussi sur mon genou, donc c'est une usure de la rotule, hein, ça frotte un peu, et il m'a
Ah,
dit
mais j'ai eu
t'as
ça,
eu ça
j'ai eu
aussi? Ah
ça.
bah on va en parler,
Ah
je
ouais,
finis mon anecdote,
on va
et
en
il me
parler.
dit ma musculature de mes quadriceps, on en revient sur ces fameux quadriceps, est tellement
Ouais.
importante que le blocage du genou, il s'en moque, mes quadris vont tirer dessus, ça va passer quoi qu'il arrive. Il me dit, mais par contre, il me dit, vous auriez tellement intérêt à vous étirer les ischios pour que justement le genou, on se rend pas compte en fait, c'est qu'il y a un mouvement de tiroir aussi à l'intérieur, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et il m'a dit, votre genou, en fait, vous passez tout en force grâce aux quadris, et alors que vous devriez passer en souplesse grâce à vos ischios. Et c'est un truc intéressant parce que moi, il n'y a personne qui me l'a expliqué. Des fois, l'autre jour, j'ai regardé des vidéos de coureurs, mais même qui montent des foulées, on a l'impression de gens qui courent extrêmement bien. Et on se rend compte que leur position du genou incliné, il dit, bah, là quand même, ça fait des tensions, ça tire et tout, c'est pas bon. Et il y a énormément de choses qui se passent sur un genou quand on court. Et donc, ce syndrome rotulien, alors que dont tu parlais, t'as ça aussi?
Alors, j'ai démarré la course à pied avec ça.
D'accord.
Quand j'ai fait mon premier semi-marathon avec 3 ou 4 mois d'entraînement à l'époque, et avant je ne courais pas du tout, hein, j'ai récupéré effectivement un syndrome, syndrome rotulien qui avait été. Alors à l'époque c'était à Redon, enfin, ça serait encore une histoire d'ailleurs, mais j'avais la chance d'être en relation avec l'organisateur du semi-marathon, qui était un médecin du sport des équipes de France handisport. Et j'étais allé le voir, il m'avait dit, bah, écoute, tu fais un syndrome rotulien, c'était sur le genou gauche à l'époque. Là, je m'en souviens, c'est marrant. Il m'a dit, voilà, ce qui se passe, c'est que tu as un muscle qui tire trop d'un côté par rapport à l'autre. Il va falloir qu'on rééquilibre tout ça. Et il m'avait donné des exercices à faire où sur le bord du lit, tu lèves ton pied avec un poids dessous. Je pense que ça a dû être à peu près, voilà, ce que tu as dû avoir ou tu dois peut-être avoir. Et en fait, ça avait rééquilibré ça avait rééquilibré le chose.
Ouais.
Et depuis, j'en ai jamais entendu parler.
Et oui, parce que tu travailles en souplesse maintenant.
Bah ouais. Bah alors, oui, je fais aussi. J'en fais beaucoup moins. Je prends pas le temps de le faire, d'ailleurs. Je fais beaucoup moins d'étirements que je n'ai fait il y a un moment de temps. Alors, j'ai jamais fait beaucoup, beaucoup d'étirements. Par contre, j'ai toujours essayé de les faire d'une manière qualitative. Hein? Style ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs. Hein? Mais effectivement, les ischios, c'est aussi des muscles qu'il faut travailler. Bon, c'est une harmonie générale, hein, de toute façon. Hein? Ça, il n'y a rien à faire. Même parce que les maladies, enfin, j'aimerais dire, les accidents du coureur, ça va. Tu pourrais faire exactement la même chose sur les disques vertébraux, sur les hernies discales. Hein. Et combien de coureurs ont des problèmes de dos?
Oui, alors là, j'ai une grosse pensée pour ceux qui écoutent ce podcast et qui ont des problèmes parce que j'ai reçu l'autre jour un message d'un coureur qui cumule genou et hernie. Et d'autres qui ont des hernies, puis au club, on en a quand même, c'est vrai, un certain nombre hein, qui souffrent de ça, qui ont été arrêtés en plein vol avec des grosses séances d'entraînement et qui ne peuvent plus du tout courir parce que ça leur fait des douleurs extrêmement importantes. Et c'est vrai que ça fait partie.
J'ai peut-être Alors, il y a des sources d'espoir hein, sur ce truc d'hernie discale. Hein. J'ai des exemples. Je te coupe, excuse-moi, mais pendant que j'y pense, moi, j'ai Alors, ça a été un de mes sponsors principaux quand je courais, sponsorisé, avec l'équipe Legendre, ou le patron Legendre, qui est une très grosse boîte par chez nous dans le bâtiment. A dû faire, je sais pas, 7 ou 8 fois la diagonale. Il a fait autant de fois le marathon des sables. Donc, tu vois, un coureur, pas un coureur rapide, mais un coureur qui a été opéré d'une hernie discale et qui, 3 mois après, faisait l'UTMB.
D'accord.
Hein, ça, voilà, ça, c'est des exemples de gens. J'en ai un autre que j'ai toujours à l'esprit aussi, d'un gars, on était à peu près du même niveau, qui s'est retrouvé coincé sans. À pouvoir plus courir, mais qui aujourd'hui recourt à 60 ans un semi-marathon en 1:20, quoi. Voilà, ça, c'est des exemples positifs où les gens ont repris. Alors, ils ont eu des périodes quand même, mais je pense notamment à Daniel Rogue, s'il m'entend. C'est un gars qui n'a pas couru pendant quelques années. Et qui aujourd'hui est revenu à ce fameux niveau qui est extraordinaire.
Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Parce qu'on va finir là-dessus, finalement, parce que moi, c'est vrai que quand j'ai entendu que tu avais été opéré du ménisque et que quand j'ai vu c'est ta femme, Léa, quand elle me dit ça, elle me dit, mais il a fait des ultras, il a fait ça, ça et tout, je me dis, waouh, mais j'ai de l'espoir.
Oui.
Et finalement, on va finir sur une note pour ceux qui sont un peu blessés, ou quand on va tous avoir à un moment donné une blessure, une petite douleur. Comment, toi, tu abordes, parce que tu es entraîneur aussi, donc tu t'en croises, tu as croisé beaucoup de gens et des cas comme ça. C'est quoi, toi, ta vision des choses, en fait?
Il faut pas s'arrêter forcément à ce que l'entourage nous suggère. Les gens qui nous entourent sont toujours plus précautionneux pour les autres que pour eux-mêmes. Hein, c'est toujours faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et dans ce domaine-là, les gens auront tous tendance à tirer, à mon avis, vers le bas. En disant, ah, tu viens de te faire opérer, bah, essaye de changer de sport, essaye de faire ci, essaye de faire ça. Je suis pas vraiment dans cette logique-là parce que il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il faut le faire bien, faut le faire d'une manière raisonnée. Faut pas aller plus vite que la musique, mais on peut le faire. Il y a énormément une question de volonté à l'intérieur et le corps est bien fait à un moment donné. Si on reprend à courir, puisqu'on parle de la course à pied, alors qu'on a eu une très grosse blessure ou un gros truc, le corps il saura nous rappeler à l'ordre si on le fait mal. Donc forcément, si on persiste à mal faire les choses, le corps va persister à te dire ça va pas, tu fais mal. Mais faut savoir l'analyser et dans ce cas-là, de se dire bon, je fais ça, j'ai mal, est-ce que je pourrais pas faire différemment? Pour pouvoir y arriver. Et souvent, souvent en discutant d'ailleurs ben avec des gens un peu plus, qui ont un peu plus de connaissances, effectivement, moi j'ai fait recourir des gens qui pensaient ne plus jamais recourir, quoi. Et surtout, d'une manière générale, celui qui est blessé, quelle qu'en soit la raison, dès qu'il s'est arrêté 3 semaines, je ne repars pas à courir pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Non, même si ça fait pas très longtemps, la première des séances à faire, je dirais, allez, pour schématiser, les 3 ou 4 premières séances que je vais refaire après un arrêt sont des séances de précaution, de remise en forme du corps. J'y vais doucement et pas longtemps. Et là, je repartirai. Et j'inscris un aspect positif. Vaut mieux courir un quart d'heure en étant positif dans sa tête, en disant « Ah, j'ai fait un quart d'heure, je suis pas blessé, ça va bien, finalement c'est bien », plutôt que de dire « J'ai fait 20 minutes, ah, oh, mais je suis mort, et puis je suis… oh, je crache mes poumons, ah, oh, puis j'ai quand même une petite douleur quelque part. » Tu vois ce que je veux dire? L'esprit positif qu'on peut avoir est tellement important dans la course à pied. On pourrait en parler sur la nutrition.
Oui, mais ça, on va en parler. On va en
Mais
parler un autre jour.
voilà.
Voilà, on était aujourd'hui donc sur ce ménisque. Je te remercie beaucoup en tout cas pour cette discussion sur ce sujet-là qui est, bah oui, qui moi, mon sujet de préoccupation maintenant. Et pour finir sur une petite anecdote, le chirurgien, tu sais, c'était un rendez-vous CHU et il y avait d'abord une externe et puis un interne et puis je sais pas combien de personnes à qui, qu'on d'abord examiné mon genou pour chacun se faire la main sur mon
ouais.
genou. Et donc, ils font tous l'examen, et puis le médecin, le grand ponte, arrive à la fin, et puis il regarde le genou, il dit « Vous lui avez demandé ce qu'il fait comme sport ?» Et elle dit « Non ». Et elle dit « Regardez sa montre ». Alors, il me dit avant « Regardez la montre », il dit « Vous voyez, ça c'est la montre de quelqu'un qui court, et donc vous ne soignez pas le genou, vous soignez d'abord la personne qui court et qui a envie de recourir, parce que vous devriez le voir à la montre. » Et elle me dit « Maintenant, demandez-lui combien d'heures il court par semaine, etc. et vous comprendrez pourquoi son genou est important. »
Ah, c'est excellent. C'est excellent. C'est signe de quelqu'un qui a un grand professionnalisme.
Et hein, tu sais pourquoi il le sait en plus, parce qu'il est marathonien. Et il m'a dit, écoutez, le ménisque, je connais bien. Et il me dit, vous inquiétez pas, vous pourrez en refaire. Au début, vous reprenez tout doucement, etc. Il dit, puis, bien sûr, vous allez faire attention, mais vous allez arrêter de faire les bêtises que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et puis, vous verrez, vous allez gagner 20 minutes sur le marathon en courant de telle ou telle manière, en faisant des plans d'entraînement, etc. Et il était très positif sur l'aspect hein, des choses en me disant, vous inquiétez pas, de toute façon, ça va le faire.
Ah, mais il n'y a aucun souci. Je rebondis juste 30 secondes. Ma meilleure performance au marathon, je l'ai fait après.
Oui, et ben écoute, on verra. Hein. Moi, j'ai un marathon, mon marathon que je vais faire en avril, donc est annulé par cause médicale pour moi en tout cas. On verra ce qui va se passer sur les autres marathons en tout cas, mais pour moi, je n'ai pas le droit de le courir. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette discussion. On se retrouvera, parce qu'on l'a dit un petit peu, mais on va se retrouver dans d'autres épisodes très rapidement, très prochainement, pour parler d'entraînement, pour parler de différentes formes d'entraînement, tant pour ceux qui débutent que pour ceux qui voudraient allonger les distances. Parce que tu as une caractéristique, c'est que tu as entraîné des gens pour faire la diagonale des fous. Et tu connais très bien cette course-là. Et on reparlera de ces entraînements-là, mais c'est un peu de teasing, tu vois. On va pas trop en dire. On va espacer un
Ouais.
petit peu au fil du temps, etc. Parce que comme ça, ils te retrouveront dans quelques temps. Ça va être une sorte de. Ouais, je vais pas dire que tu es un chroniqueur régulier, mais ça... En tout cas, on va se
Ah ouais.
revoir très rapidement pour parler de ces sujets-là. En tout cas, je te souhaite une très belle journée,
Volontiers.
très très belle journée pour et je te remercie encore beaucoup pour ces conseils. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao,
Merci.
bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.